Bonjour. Je voudrais vous faire part de quelques réflexions. Quand j'avais 20 ans, à l'école biblique, parfois, entre élèves, on se retrouvait et nous parlions de comment nous envisagions notre avenir. Rien de plus normal. Et souvent, il y avait une phrase qui revenait. Quand les vieux dinosaures auront disparu, on pourra enfin agir librement. Quand on parlait des vieux dinosaures, on parlait des vieux pasteurs qui dirigeaient l'église d'une main implacable. Et voilà, on les trouvait archaïques, on les trouvait dépassés, ne comprenant plus très bien le temps dans lequel ils vivaient. Bien sûr, on avait du respect pour ces dinosaures, mais on les regardait comme des gens d'un autre âge, en fait. Il y avait toutefois des hommes de Dieu qui nous impressionnaient. Il y avait le pasteur Boudéen, qui était un évangéliste extraordinaire et qui, dans chacune de ses réunions, était accompagné par des guérisons et des miracles, à tel point que les hôpitaux lui envoyaient des malades, parfois même sur des civières, des cas, et c'était extraordinaire. Il y avait le pasteur André Nicole aussi qui nous impressionnait beaucoup, qui se trouvait au 10 rue du Sentier, à Paris. Je l'ai eu comme professeur. Et puis il y avait Raphaël, le gitan dont je vous parle tout le temps, qui lui aussi avait des miracles fantastiques, il y avait Archange. Des hommes de Dieu français. Il y en avait pas mal qui étaient quand même bien. Et puis il y avait Osborne, il y avait Oral Roberts, il y avait Billy Graham, des Américains, qui nous impressionnaient. Billy Graham n'avait pas de miracle, mais Osborne et Oral Roberts, c'était des gens, ça défiait l'imagination, c'était extraordinaire. Puis il y avait un livre d'un ancien hindou. Le livre, ça s'appelait le Sadhu Sundar Singh. Alors lui nous fascinait carrément. Et on se disait, quand les vieux dinosaures auront disparu, on pourra agir selon les besoins de notre génération. Que ces dinosaures ne comprennent pas. Ça, c'est toujours le problème entre les jeunes et puis les anciens. Hein. Et puis, on a eu un jour, à l'école biblique, la visite d'un pasteur américain, Bill William. Alors, Bill William, je le connaissais parce qu'il avait passé un temps dans mon église à Lausanne pour apprendre le français. Il était là avec sa femme, Joanne, et ses enfants. Et puis voilà qu'il débarque dans notre école biblique et il s'est adressé à nous. Il avait une idée qui avait été lancée, elle, par un pasteur américain du nom de David Wilkerson. Peut-être vous avez lu La Croix et le Poignard, ou peut-être vous avez vu le film La Croix et le Poignard, et qui raconte l'histoire de ce petit pasteur de campagne qui un jour descend à New York et puis est emmené dans une aventure absolument extraordinaire dans les ghettos et qui aide des milliers de personnes à se sortir des ghettos et aussi des problèmes de drogue. Il avait créé des cafés-bars dans plein de pays et même l'État américain lui avait demandé de créer des centres au Vietnam pour aider des soldats américains qui avaient des problèmes de drogue là-bas. Ou alors quand il rentrait, n'est-ce pas, du Vietnam, de les prendre en charge. Enfin, c'était un homme qui avait vraiment un ministère extraordinaire. Et voilà que ce Bill William était là mandaté en France pour créer un centre qui s'appelait le centre Teen Challenge, qui était donc une inspiration de David Wilkerson, et ce grand homme de Dieu américain qui est maintenant décédé et qui était un prophète aussi. Un vrai prophète. Parce que maintenant il faut dire vrai quand on dit prophète, parce qu'il y a tellement de faux prophètes que voilà, on nage dans le bonheur en ce moment, hein. Alors, Bill William avait donc ouvert un café-bar sur les quais de la Seine. C'était un semi-remorque extensible dans le sens de la largeur et on pouvait mettre à peu près 200 personnes là-dedans. Et alors, il nous parlait, il disait, voilà, je voudrais créer une équipe qui irait dans les rues à Saint-Michel, parce qu'à l'époque tout se passait à Saint-Michel. Maintenant c'est les Halles, c'est la Bastille, mais à l'époque c'était Saint-Michel. Alors l'équipe de Teen Challenge irait dans la rue, dans la journée, avec des tracts, s'assirait parmi les jeunes et les évangéliserait, les inviterait à venir dans ce fameux café-bar sur les quais de la Seine. On leur servirait des boissons gratuitement, non alcoolisées évidemment. Et puis à chaque table, il y aura un équipier de Teen Challenge avec une Bible, et puis ça serait de l'évangélisation dans la décontraction. C'était révolutionnaire. D'ailleurs, toutes les églises étaient contre. Ils ont critiqué, oui, l'évangile dans les bars, c'est diabolique et tout. Puis quelques années plus tard, quand ils ont vu que ça marchait, ils en voulaient tous un. Bon, enfin bon. C'était révolutionnaire. Et ça, les vieux dinosaures, ils ne l'auraient pas imaginé. Donc, ce Bill Williams nous a plu avec sa vision, son idée, c'était génial. Et c'est ainsi que, pendant et après mon école biblique, j'ai travaillé pendant 7 ans avec Bill Williams dans le centre de Teen Challenge. En tant que j'étais responsable de l'évangélisation, nous avions 3 cafés-bars à Paris, et j'étais responsable de l'évangélisation. Et on remplissait, on faisait ça le comble tout le temps. Des centaines de jeunes et de moins jeunes se sont convertis là, se sont repentis, ensuite ils étaient baptisés dans le Saint-Esprit. Le dimanche, on les emmenait avec nous dans les églises, mais pas dans forcément une église particulière. On les emmenait là où on était invité. Si on était invité chez les Mennonites, on les emmenait chez les Mennonites. Si on était invité chez les Pentecôtistes, on les emmenait chez les Pentecôtistes. Si on était invité chez les Baptistes, on les emmenait chez les Baptistes. C'était interconfessionnel. On ne prêchait pas une religion, on prêchait Jésus. C'était formidable, ce n'était pas sectaire, c'était pas archaïque, c'était... Alors nous avions un plan, c'était le plan de David Wilkerson, que Bill Williams avait mis en place bien là en France. Premièrement, c'était l'évangélisation dans la rue, comme je vous ai dit, on allait dans la rue. Ensuite, on donnait rendez-vous aux jeunes gens, aux moins jeunes gens d'ailleurs aussi, le soir dans les cafés-bars. Et puis là, on les évangélisait, et ceux qui se convertissaient, eh bien on les emmenait avec nous, dans les églises où nous allions le dimanche, comme je vous le disais, mais nous avions aussi un centre de réhabilitation qui se trouvait à Hardricourt. Et là, on prenait avec nous des drogués pour les aider à s'en sortir. Et on passait des nuits avec eux, des jours avec eux, jusqu'à ce qu'ils arrivent à se sortir déjà physiquement, n'est-ce pas, de l'accoutumance, et puis ensuite psychologiquement, et on les accompagnait dans la prière, on les enseignait de la parole de Dieu, et ils restaient avec nous des mois et des mois. C'était un travail formidable, et beaucoup s'en sont sortis, et d'ailleurs je suis encore ami avec plusieurs de ces jeunes qui sont devenus vieux maintenant, mais qui sont restés des chrétiens. Et sixièmement, nous avions une équipe qui faisait des tournées en France, en Suisse, en Belgique, voilà, pour faire de l'information au sujet de la drogue. Alors ces tournées, on les faisait dans les écoles, dans les églises, on louait des salles de théâtre, enfin bon voilà, on faisait de l'information, on mettait des affiches, les gens venaient, puis alors on avait aussi le film La Croix et le Poignard qu'on projetait, c'était pour attirer les gens, et puis après on faisait de l'information au sujet de notre programme. Et ça marchait du tonnerre, c'était formidable. Mais un jour, alors que Bill Williams était en vacances dans sa famille aux USA, parce que chaque année il avait quand même droit à deux semaines, je crois, de vacances pour aller, même un peu plus, je crois, c'était pour aussi faire des tournées dans les églises pour aller demander des fonds, parce que la France ne soutenait pas ce ministère. C'était les États-Unis qui soutenaient la France, pauvre France, enfin bon, voilà. Donc, quand Bill est parti en vacances une certaine année avec sa famille, il a mis des vieux dinosaures à la tête pour, au cas où il y avait des problèmes, les régler. Mais ces vieux dinosaures, dans un temps record, ont tout foutu par terre. C'est vrai ce que je vous dis, ils ont tout foutu par terre. Et on s'est retrouvés à la rue, tous les équipiers. On s'est tous retrouvés à la rue. Mais là, comme ça, tous les équipiers qui avaient donné leur vie, leurs plus belles jeunes années dans cette œuvre, Moi, j'avais travaillé 7 ans là-dedans. Bénévole, hein. Dehors. Foutu dehors, il n'y a pas d'autre terme. Hein. Par une bande de dinosaures français. Sans aucun ménagement, sans explication, sans rien du tout. Du coup, je me suis tourné vers des amis de l'école biblique pour voir si on pouvait faire quelque chose ensemble avec des anciens élèves. Et vous savez quoi? En 7 ans, ces anciens élèves qui, avec moi, râlaient contre des vieux dinosaures, ils étaient devenus des vieux dinosaures. Ils avaient été bien formatés par le système, n'est-ce pas? Ils étaient devenus des vieux dinosaures. Il y avait une pensée conforme aux avis de l'autorité établie, qui ronronnait dans la bureaucratie. En fait, c'était devenu des orthodoxes. Mais en plus d'être orthodoxe, ce qui s'applique à la doctrine, aux opinions et à la pensée, si vous allez regarder le mot orthodoxe, c'est ça que ça veut dire. Ils étaient devenus orthopraxiques. Qu'est-ce que c'est que ce mot savant? Ils étaient devenus, c'est-à-dire que leur action, leur conduite, était conforme aux usages et aux prescriptions de leur domaine religieux. Il ne faut pas en sortir. Ils étaient dans un cadre et ils ne pouvaient pas en sortir. Dans leurs actions, pas seulement dans leurs pensées, mais dans leurs actions. Dans leur conduite. Mes frères et sœurs, c'est pourquoi je revendique mon hétérodoxie. Qu'est-ce que c'est que l'hétérodoxie? L'hétérodoxie, ça vient de 2 mots grecs. Le mot « autre » et le mot « opinion ». J'ai une autre opinion. Je pense d'une autre manière et j'agis d'une autre manière. Je ne veux pas me couler dans ce moule, n'est-ce pas, religieux, à la manière habituelle et dominante, n'est-ce pas? Je ne veux pas. Je suis un hétérodoxe. C'est-à-dire que je mets mon originalité et je dis haut et clair que les orthodoxes se positionnent comme des conformistes. Ils ne se conforment pas comme... Ils n'ont pas une réflexion critique, ils n'osent pas. Qu'est-ce que dirait leur supérieur? Parce qu'il ne faut pas se leurrer, il n'y a pas que chez les catholiques qu'il y a un pape. Hein? Chez les protestants aussi... Chez les pentecôtistes aussi, chez les baptistes aussi, il y a partout. Alors, c'est pas un pape, mais c'est un bureau central, n'est-ce pas? C'est comme ça. Si Martin Luther, le réformateur, n'avait pas été hétérodoxe, nous serions tous à genoux devant la statue de la Vierge Marie, mes frères et sœurs. Vous y pensez? Nous serions en train de prier pour les morts. Si les Osborne, Oral Roberts, Raphaël, etc., n'avait pas été hétérodoxe. Personne n'évangéliserait là où sont les pécheurs, mais uniquement dans les saints lieux appelés Église. Vous savez, quand j'ai commencé à prêcher dans la rue, j'allais aux puces. Alors il y a un pasteur qui m'a prêté son église pour le samedi après-midi, pour pouvoir recevoir des jeunes gens. Et puis un jour, il a entendu dire que je me mettais à genoux dans la rue et que je priais. C'est ce qu'il a fait. Il m'a foutu dehors en disant qu'il y a un verset dans la Bible qui dit « Jésus, il n'élèvera pas sa voix au coin des rues ». C'est vrai, c'est écrit. Mais il a sorti ce texte de son contexte, il me l'a balancé dans la tronche et il m'a viré. Parce que je prêchais aux pécheurs dans la rue. C'est rigolo, hein? Si David Wilkerson et Bill Williams n'avaient pas été hétérodoxes, des centaines de milliers de drogués seraient morts sans connaître Jésus, mes frères et sœurs, sans parler de toutes les prostituées qu'on a amenées au Seigneur aussi. À l'école biblique, nous regardions les orthodoxes et les orthopraxiques des orthopraxiques, pour retenir le mot, hein, comme des vieux dinosaures. Eh bien, on avait raison. Où sont les hétérodoxes d'aujourd'hui? Ils sont où? Où sont ces cohortes de jeunes gens et de moins jeunes gens qui osent défier les vieux dinosaures, qui osent leur tenir tête pour faire une œuvre qui sauve notre génération? Où sont-ils? Depuis 1968, année de ma conversion, il m'a été très difficile de faire entrer quoi que ce soit dans la tête de cette génération. Très difficile. C'était un peu comme... Des fois, j'ai l'impression d'essayer de fendre des nœuds de sapin. C'est ce que c'est. Vous avez déjà vu une bûche avec des gros nœuds dans les... Et puis, vous essayez de fendre un nœud de sapin avec un morceau de pain trempé dans du thé, en guise de coin, et une mandarine comme maillet. C'est-à-dire un truc impossible, invraisemblable, un truc de fou. Même les saints sont lents à comprendre. Il y a pas mal d'années que j'essaye de préparer les fils et les filles de Dieu à recevoir les choses venant du Père Céleste, et j'en vois qui se brisent comme du verre dès que se présente quelque chose qui est différent de leur sainte tradition. Ah, par contre, alors, pour aller suivre des andouilles qui vous prophétisent, n'est-ce pas, la mort de Donald Trump, ou des catastrophes, ou qui vous donnent 7 fois la date du retour de Jésus, qui se trompent. Alors là, ça, ils sont suivis, ceux-là. Là, ils ont des centaines de personnes qui les suivent, ceux-là. C'est quand même bizarre que les gens ne peuvent pas résister au feu du Saint-Esprit, mais par contre, ils vont toujours vers un faux feu, quelque chose qui est stupide. Oh, mes frères et sœurs, c'est vrai, je ne suis pas comme les autres hommes. Je dépends du Dieu vivant pour tout ce que je dis, parce que mon cœur brûle pour le rétablissement de toutes choses, sans lequel nous ne verrons pas l'enlèvement de l'épouse. Acte 3, 21. Si je pouvais dire ce que j'ai vu depuis que je me suis converti, si je pouvais dévoiler ces révélations que j'ai reçues de Dieu, pas une seule personne qui m'écoute là sur le net ne rentrerait dans sa chambre la bouche en silence devant l'Éternel sur sa religion, jusqu'à ce qu'elle ait accepté d'apprendre quelque chose. En privé, chacun me dit comprendre les choses de Dieu. Alors que dans le vécu, il est clair que presque tout le monde, tout leur est incertain. Ils n'ont pas de certitude à part des choses fausses et qui s'avèrent fausses. Jésus ressentait ça aussi. Quand il disait, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter. J'ai donné sans retenue les choses saintes que Dieu m'a données. Eh bien, à partir d'aujourd'hui, je ne vous révélerai que de temps en temps les sujets que le Saint-Esprit me révélera. Mes frères et sœurs, je vous exhorte à prêter attention. Je vous avertis de prendre garde à qui vous... Qui est-ce que vous suivez? Vous pensez suivre Jésus, mais est-ce que ça ne serait pas le Jésus pentecôtiste, ou le Jésus catholique, ou le Jésus baptiste, ou le... Vous savez, dans chaque club chrétien comme ça, on formate les gens. Ils pensent qu'ils suivent Jésus, mais quand ils lisent la Bible, ils ont une grille devant les yeux. La grille pentecôtiste, la grille baptiste, ils ne sont pas inspirés véritablement par le Saint-Esprit, mais ils sont inspirés par des hommes qui ont un cadre duquel ils ne sortent pas, ils ne veulent pas, ils ne permettent pas aux autres de sortir. Je vous exhorte à prêter attention à tous les enseignements que je vous ai donnés. Je sais, il y en a beaucoup. Certains disent, mais ce Michel Janton n'est qu'un homme, et alors ? Supposez-vous que le Seigneur jugerait bon de révéler sa volonté à des gens qui sont des surhommes ? Mes frères et sœurs, je ne suis pas orgueilleux en disant que je suis comme Élie, parce que la Bible dit qu'Élie était un homme de la même nature que nous. Mais il avait pourtant un pouvoir tel auprès de Dieu qu'en réponse à ses prières, il pouvait fermer les cieux au point qu'il ne pleuvait pas pendant trois ans et six mois. Un homme que Dieu écoutait. Si Élie était un homme de la même nature que vous, posez-vous la question. Élie était-il orthodoxe ou hétérodoxe? Parce qu'un homme choisit d'être ce qu'il veut être. Vous voyez, la différence, elle est là. Et les ténèbres et l'ignorance de notre génération est telle qu'elle considère incroyable qu'un homme humain ait des relations avec son Créateur. Certains diront que j'ai des enseignements erronés. Par rapport à quoi ? Quand est-ce que quelqu'un m'a confondu à ce sujet ? Qui peut me prouver que ce que je dis est faux ? Prenez le baptême pour les morts, prenez les mariages éternels, prenez notre préexistence, la préexistence de notre esprit, prenez le lavage des pieds. Ne trouvez-vous pas cela dans les Écritures ? Oui, mais pas dans votre Église, ça c'est certain. Alors, parce que ce n'est pas dans votre Église, mon enseignement est erroné ? Non, mais on va où, là ? Allô ? Je ne suis pas parfait, étant humain, mais il n'y a pas d'erreur dans ce que je vous ai enseigné. Faut-il donc qu'on me jette comme quelque chose qui vaut rien ? S'il arrive que je fasse quelque chose de mal, ça vient de ma faiblesse humaine, on est tous, voilà. Parce que je suis un homme comme tous les autres, et donc aussi comme Élie. Il n'y a que Jésus qui ait été parfait en vivant dans la chair, que Jésus. Personne ne vit sans défaut. Alors ne vous servez pas de mes défauts pour justifier votre incrédulité, s'il vous plaît. Je pose la question, pensez-vous que même Jésus, s'il était ici, serait sans défaut à vos yeux ? Est-ce que vous pensez que Jésus serait sans défaut à vos yeux ? Vous dites, ah bien sûr, il serait sans défaut à mes yeux. Pas si sûr. Ses ennemis ont dit toutes sortes d'horreurs sur lui et contre lui et continuent à en dire. Parce qu'il cherchait l'iniquité en lui, cette bande de vieux dinosaures. Alors moi, je n'ai pas attendu la perfection chez les autres. J'ai cherché à faire mieux et j'ai été hétérodoxe et je continuerai à l'être. Mes frères et sœurs, soyez ainsi, fiers d'être des hommes, des femmes avec des faiblesses, oui, mais avec l'approbation de Dieu, parce que vous vous coulez dans son moule et non dans le moule des religions. Comme Paul l'exige dans 1 Corinthiens 16-13, soyez virils, ça veut dire soyez courageux. Il faut être courageux pour oser dire non à ces vieux dinosaures. Il faut être courageux, j'en sais quelque chose. Hein. Ils vous menacent, n'est-ce pas ? La main de Dieu est sur toi. Va être puni. Être viril, c'est être hétérodoxe. Ne laissez pas les gens vous monter sur la tête et juger votre vie. S'ils le font, qu'ils ne s'étonnent pas d'être jugés eux aussi. Soyez hétérodoxes. Mettez en avant votre originalité de fils et de fille de Dieu doué d'intelligence. Ne vous positionnez pas par conformisme. Positionnez-vous depuis une saine réflexion critique. Quel pasteur vous dira ça? Aucun. Même la Bible, ayez une réflexion critique. Vous vous rappelez cette prédication que je vous ai faite, vous montrant des trucs bizarres dans la Bible? Un évangile qui dit qu'il y a deux possédés à Gadara, un autre qui dit qu'il n'y a qu'un possédé à Gadara. Enfin, ça c'est juste un exemple. Mais, par exemple, le récit de la résurrection de Jésus, il n'y a pas un récit qui dit la même chose que l'autre. Ayez un esprit, une réflexion critique, ça ne veut pas dire que vous manquez de foi. Ça veut dire que vous faites preuve d'intelligence. Positionnez-vous depuis une sainte et saine réflexion critique de ce que vous comprenez, de ce que le Saint-Esprit dit à l'épouse dans ces derniers jours. Soyez forts. Amen. Jésus, merci de bénir mes frères et sœurs et de les aider à abandonner l'orthodoxie pour devenir des hétérodoxes, virils, remplis de foi, dont tu pourras te servir avec puissance. Merci Seigneur Jésus. Amen.